Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Sortie de zone. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci d'être en notre compagnie encore une fois aujourd'hui. Vous avez été très nombreux en début de semaine. Plus de 8000 personnes ont écouté le podcast en début de semaine. Donc, c'est un nouveau record pour nous. Donc, merci d'être là en notre compagnie et bien sûr de partager avec vos amis. Allons tout de suite voir qui sont nos collaborateurs autour de la table aujourd'hui. Jérémy Rainville du 98.5. Salut, Jérémy.
Salut, Philo.
Michael Lalancette à Québec. Salut, Michael.
Salut.
Et Guillaume Lefrançois en studio avec moi aujourd'hui. Salut, Guillaume.
Salut.
Alors, les gars, juste une petite note avant de débuter l'émission, c'est que au moment où on enregistre ce programme, on n'a pas toutes les informations concernant ce test positif chez les Flames de Calgary qui nous a été dévoilé ce matin. Donc, au moment où on se parle, on croit tous qu'il y aura un match ce soir entre le Canadien et les Flames, mais les choses pourraient changer au courant de la journée, donc peut-être une heure ou quelques heures même après l'enregistrement de cet épisode. Donc, on voulait quand même vous mettre au parfum de cette information-là pour pas que vous vous demandiez justement si jamais à un moment donné on touche à un sujet qui vient à l'encontre de cette nouvelle-là, ben vous saurez pourquoi. Alors, le Canadien qui se retrouve dans une position au classement où il y a peu de chances que les choses bougent, on va se le dire, là, on est assez loin de la troisième place, mais aussi du cinquième rang. Il reste 12 matchs à jouer. Je me demande si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On pourra en discuter dans les prochains instants, mais je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que le défi qui attend le Canadien lors des trois prochains matchs contre les Flames de Calgary, c'est le dernier gros dossier à régler avant de vraiment avoir une perspective de ce qui s'attend, de ce qui nous attend.
En fait, les Flames sont tellement en position tellement précaire que moi, à mon avis, c'est plate à dire là, de mettre l'objectif bas comme ça, mais si le Canadien se fait pas balayer, le Canadien va être correct, tu sais, je veux dire, ne serait-ce que c'est ça exactement, juste en gagner une, tu sais, je veux dire, les Flames vont finir par manquer de temps, je veux dire, là, à l'heure actuelle, il en reste 11 matchs à jouer, il va seulement rester 8, donc, après la série contre le Canadien, donc, s'ils sont pas capables de carrément les balayer, ça va être très difficile pour les Flames, là, je veux dire, je pense pas qu'ils vont partir sur une séquence de 11 victoires de suite,
donc. Non, c'est ça. Pas de la façon dont ils jouent, présentement.
Ben, c'est ça, parce qu'oublions pas que quand ils jouent contre d'autres équipes que le Canadien, ils ont un petit peu plus de misère, là, tu sais, ben, donc.
Ça, c'est certain. Michael, quand on regarde ça, c'est assez rare dans une saison que le classement est réglé aussitôt à l'avance. Je veux dire, ce qu'on voit présentement, là, mis à part peut-être des fois Edmonton et Winnipeg qui s'échangent peut-être le deuxième et le troisième rang, mais les quatre places qui sont désignées pour les équipes qui vont aller en série, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Montréal, ça fait déjà plusieurs semaines que c'est comme ça et que ça n'a pas bougé. Et dans le cas du Canadien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, très peu de chances de monter ou de descendre au classement. Est-ce que selon toi, c'est une bonne chose?
Ben, peut-être que ça met moins d'équipes en danger, entre guillemets. Tu sais, dans la série de trois matchs, notre regard, c'est sûr, va être sur les performances du Canadien, mais dans le fond, ce sont les Flames qui ont un peu le fusil sur la tempe. Tu sais, ils peuvent pas être balayés, ils peuvent pas, faut qu'ils aillent chercher des points, de préférence en temps régulier pour pas en donner aux Canadiens.
C'est vrai.
Ça, c'est la première chose. Dans une saison écourtée, qui est cette dynamique-là de, que tout est, on dirait, un petit peu, pris dans le jello, là. Tu sais, c'est comme si que, bon, il y a des équipes qui gagnent, des équipes qui perdent, mais ça change pas le portrait de la section. C'est quand même particulier. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être un peu plus dynamique que ça, qu'il y ait des mouvements au classement. Or, comme tu l'as dit, ça fait des semaines que ça n'a pas bougé. Alors, j'ai hâte de voir les matchs, bien entendu, mais je pense que ce sont les Flames qui ont tout à perdre dans cette série-là. T'sais, ouais. Nous, on va espérer que peut-être le dernier match redonne de l'élan, redonne de la vigueur aux Canadiens. Est-ce que c'est annonciateur de quelque chose, ce qu'on a vu contre les Oilers? J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre contre les Flames. Une équipe contre laquelle le Canadien n'a pas connu beaucoup de succès cette année. Alors, j'ai hâte de voir ça, mais t'sais, dans le fond, c'est un peu, ça passe ou ça casse pour les Flames.
Oui, ça, c'est certain. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Tu sais, je pense que si le Canadien gagne un des trois matchs, c'est pratiquement, quasiment déjà réglé. En même temps, Jérémy, jouer sans pression, tu sais, c'est même toi qui me l'as dit à un moment donné, je pense qu'on se parlait dans les couloirs, puis tu me disais, c'est un problème. C'est un problème d'être dans cette situation où tu es confortable. On a vu des équipes dans le passé être confortablement installées en première place dans leur division pour ensuite de ça s'effondrer en séries éliminatoires, justement parce que on n'a pas vraiment fait face à de l'adversité. Comment tu vois ça?
Ben, moi, je vois que, premièrement, je pense qu'on a décidé de changer un peu la façon d'évoluer là, chez le Canadien. On l'a vu dans le match face aux Oilers Edmonton. Puis je trouve qu'on passe rapidement sur ce match-là. Mais selon moi, outre les trois dernières minutes où les Oilers ont marqué deux fois, c'est 57 minutes où le Canadien a joué, à mon avis, son meilleur match de la saison. Ce que j'ai vu sur la patinoire, c'est le Canadien de Montréal qui a sorti des Penguins de Pittsburgh l'an passé en série de fin de saison. Contrairement à la série contre les Pingouins où on avait avec pas de club, là on est avec club, puis on a joué du hockey identique. Moi, ce que je vois, c'est ça, le Canadien de Montréal en série. Maintenant, vous dites, tu sais, s'il en gagne un sur trois, moi, si moi j'étais Dominique Ducharme, et je ne suis pas Dominique Ducharme, j'ai beaucoup moins de cheveux blancs, mais si j'étais Dominique Ducharme, honnêtement, je vois cette séquence de trois matchs-là comme un 2-3. T'sais, c'est un 2-3. Allez-y, les boys. Si on embarque dans la formule série de fin de saison, ben on se donne un défi. C'est un 2-3. Il faut sortir les Flames de Calgary. Il faut gagner deux matchs sur trois, puis on y va. Moi, je pense que c'est cette façon-là qu'on doit l'approcher. Et j'espère juste qu'aujourd'hui, bon, les nouvelles à propos de la COVID, j'espère que ça va pas déstabiliser tout le monde. J'espère qu'on va garder le focus, t'sais, d'avoir l'entraînement qui était non planifié hier, que les joueurs décident d'aller sur la patinoire. Ben, pour moi, je ça d'une façon positive. Bon, c'est le fun, là, les paroles, mais on l'a souvent dit, t'as beau dire que t'es bon, faut que tu le prouves quand tu joues, et c'est ce que le Canadien a fait contre les Oilers, fait que j'espère que ça sera la même chose contre les Flames de Calgary.
Ben, je me pose la question, là, t'as raison de dire que le Canadien a joué un bien meilleur match, on s'est impliqué physiquement, on a essayé, on a joué au tough un peu, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison, mais c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait ce déclic-là. C'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que c'est le fait qu'on a blessé Carey Price pis on a voulu se venger, Corey Perry a laissé tomber les gants? Est-ce que c'est le fait qu'il y a quelques journalistes qui ont piqué des joueurs avant ce match-là? Pour la première fois depuis longtemps, il y a des joueurs qui ont mal réagi, ont pas vraiment apprécié de se faire second-guesser. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux games-là.
J'ai l'impression que la blessure à Price a l'air d'avoir uni, je pense, les gars. Puis ça s'est vu dès l'échauffement. Là, pis ça a été Anderson, puis après ça Sherrod, puis après ça Weber. C'est sûr que ça a eu un petit effet d'unir les gars. Je soupçonne les entraîneurs de s'être servis de ça aussi pour justement galvaniser un peu l'équipe. Mm-hmm. D'ailleurs, Ducharme, après le match, avait dit quand même aussi, on a défié nos joueurs. T'sais, ça, il l'a dit. C'est comment tu défies tes joueurs. Là. Après ça, chaque coach a sa façon de faire. Mais à voir comment les gars ont réagi, comment les gars ont été sur Alex Chiasson tout le long du match, c'est clair que ça a peut-être été la petite étincelle là, qui a servi à unir tout le monde.
Et pourtant, je pense pas que le but de Chiasson, c'était de blesser Carey Price là-dessus. Là. C'était pas on a vu des gestes beaucoup plus délibérés et dangereux qui ont pas mis le feu au derrière des joueurs du Canadien. Donc,
cherchait une raison peut-être aussi, Philo. On cherchait une motivation pour le trouver avec ça. Jumelé au fait que les officiels, pendant le match, ils ont regardé un dossier. Ils ont regardé le dossier Chiasson. Et là, Corey Perry a réglé ça en début de match. Donc, les officiels, ils ont pris leur sifflet puis ils ont mis ça dans leur poche. Puis là, les gros mammouths défenseurs du Canadien en ont profité. C'était le festival du double échec et du coup de poing dans la poitrine. Je vous le dis, écoute, Ben Sherratt a viré cul par-dessus tête. Draisaitl, même chose pour Shea Weber. C'était comme dans les séries. Puis tu sais, quand les gens disent « Ouais, mais tu sais, ça n'a pas d'allure d'avoir deux genres de façon d'arbitrer », ben c'est ça en série de fin de saison. C'est que souvent, on va appeler un cas majeur, mais les escarmouches, les obstructions, on en donne beaucoup moins. Puis c'est à l'avantage du Canadien. C'est là qu'on se voit, on comprend une chose, c'est que ce club-là, cette brigade défensive-là, est clairement pas montée pour gagner les matchs à 3 contre 3 en prolongation pendant la saison régulière. Mais quand t'arrives dans boîte, dans roche, puis que les gars, ça leur tente de jouer comme ça, ben ce club-là est bien balancé pour les séries de fin de saison. Maintenant, voyons comment ils vont réagir. T'sais, c'est le fun, on l'a vu un match, mais faut que tu recommences. Pis c'est ça, les séries. C'est des matchs après match, après match, après match, avec des blessures, avec des choses que tu peux pas contrôler. C'est là qu'on est en train de se tester présentement.
Moi, je doute qu'on revoie ce type de Canadien-là à tous les soirs. J'espère, peut-être que ben je me trompe. Mais Michael, est-ce que...
Mais contre Calgary, j'espère que oui. Honnêtement, les trois matchs contre Calgary, en bas de ce qu'on a vu contre les Oilers, moi, je vais trouver ça très, très décevant.
Ben, je te le dis, attends-toi à être déçu, parce que ce sera pas de même pendant trois games. Mais moi, je te le garantis, en tout cas, de ce qu'on voit depuis deux mois.
Les deux premières, peut-être pas à troisième. Mais honnêtement, là, maintenant, les deux premières, que ça soit comme ça.
Michael, vas-y donc là-dessus.
Oui, ben j'aurais le goût de dire que ça soit pareil contre les Oilers, je pense pas, mais faut que les joueurs s'inspirent quand même de certains aspects. T'sais, le support sur la rondelle, ça a été, écoute, ça a été fait de façon parfaite, là, ou presque, dans les, je dirais, c'est ça, les 50 premières minutes du match. Après ça, la fin de match, ben premièrement, il y a eu une très mauvaise pénalité.
Ouais, c'est ça.
Faut pas dérailler du plan. Puis moi, j'ai trouvé aussi que dans le match, puis on en avait parlé en début de semaine, tu sais, du leadership, puis que les meilleurs soient les meilleurs. Dans le fond, ça a été un peu ça dans le dernier match. Tu sais, il y a eu des vétérans qui ont passé de la parole aux actes. Je pense à Anderson, par exemple, qui avait fait une sortie, dire faut être plus affamé. Mais on les a vus affamés, les vétérans. Là. Tu sais, des Weber, c'était difficile de jouer contre lui. Il a été physique, intense, puis il était intelligent dans sa façon de jouer. Chiarot, ça a été un de ses meilleurs matchs de l'année. Alors, il y a eu des vétérans qui se sont levés.
Mais
est-ce que ça va être ça à tous les matchs, je sais pas, mais faut s'inspirer, tu sais, le support sur la rondelle, jouer en unité de 5, on l'a vu ça, là, tu sais, donc sans que ça soit comme ça dans 60 minutes pas à tous les matchs, ben il y a une recette, il y a quand même une partie de succès à ramener dans d'autres matchs s'ils veulent encore en connaître.
Tu sais, j'ai eu de la difficulté à comprendre, tu sais, on s'est vengé là clairement dans ce match-là contre Chiasson par exemple, ça c'est Corey Perry qui laisse tomber les gants, c'est bizarre. Puis moi je préfère tellement mieux.
C'est réaliste.
Mais non, mais c'est deux gars de quatrième trio un contre l'autre.
Moi, ben,
c'est du point de vue du Canadien, c'est la meilleure chose à faire, sinon c'est un défenseur qui allait, il y a pas vraiment d'autres attaquants, sinon non, c'est Josh Anderson, mais un match sur deux, il se ramasse dans le vestiaire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu considères que le geste de Chiasson était inacceptable, là, réglis son cas, drette live, là, tout de suite après le geste, puis ça finit là. Là, t'attends 48 heures plus tard, puis là, c'est Corey Perry qui est obligé d'aller régler ça. Je sais pas. Je trouve ça ordinaire.
Ouais, sur le délai, je te l'accorde que c'est vrai que ça leur a comme pris du temps à être fâché.
C'est comme, vas-tu fâcher? Je sais pas. Ben, je pense que oui, moi. Ben, on va y aller, vous dites affaire la prochaine fois. Tu vas voir, ça passera pas.
Philo, en elle, prochain, m'a acheté le livre des lois non écrites du hockey. Tu vas comprendre comment ça marche. Ben, hey, écoute, le gars, là, honnêtement, Corey Perry, là, c'est exemple. Là, on dit n'importe quoi. Josh Anderson laisse tomber les mitaines contre Chiasson, mettons.
Ouais.
C'est un de tes meilleurs attaquants.
C'est sûr.
Gars se blesse, t'es fait. Le gars s'en va au banc de pénalité, t'es fait. Tu veux pas avoir ça. Chiarot, il revient d'une blessure à une main parce qu'il s'est battu. Shea Weber, tu veux pas qu'il se batte, tu sais. Fait que, si, mettons Anderson se bat avec avec Chiasson. Ils reviennent dans le vestiaire, là, puis tout le monde regarde Corey Perry qui est à sa quatrième ligne, qui est capable un peu de dire, hey, buddy, ça te tentait pas d'y aller au lieu que ça soit notre Top Gun qui soit là. Ouais. Ben, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Mais ben, quand même, c'est ça l'histoire.
Bon, OK. Les gars ont demandé de pratiquer quand même hier, même si la convention collective leur permettait une journée de congé. J'ai rarement vu ça.
C'est vrai que c'est rare.
J'ai rarement vu ça.
Surtout à l'initiative des joueurs. Parce que c'est déjà, mais tu sais, ça reste que les entraîneurs, les équipes doivent respecter. Il faut que tu donnes 4 jours de congé par mois. C'est obligatoire et théoriquement, il faut que ce soit déterminé à l'avance. J'ai un souvenir, honnête, pour vrai, depuis que Michel Therrien est arrivé comme coach en 2012, là, j'ai une fois un souvenir qu'un congé un dimanche avait été annulé le soir même après une défaite. Là, mais c'est tout. Ça avait été, si je me souviens bien, à l'initiative de l'entraîneur. Mais là, à l'initiative des joueurs comme ça, c'est particulier, mais c'est une saison particulière, puis c'est clairement le produit de la saison particulière dans laquelle on vit.
Ouais, je pense que Michel avait dit à l'époque, ils sont mieux de comprendre.
Non, ça, c'était pour Ryan White.
À 6h30 demain matin, là, tout le monde à l'arrêt. Là. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose de voir que les gars veulent embarquer sur la glace quand même. Je comprends qu'ils sont sur la route, sont pas à maison, donc c'est moins problématique. Mais moi, je pense que ça démontre que c'est un club qui veut faire quelque chose. Maintenant, qu'avez-vous pensé de John Merrill lors de son premier match? Moi, je dis souvent qu'un défenseur, ce qu'on appelle stay at home, là, si t'en parles pas dans un match, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai rien à dire contre le travail de John Merrill. Est-ce que c'est un upgrade sur Brett Kulak? Excusez l'expression encore une fois, là, mes deux anglicismes consécutivement, mais est-ce que c'est mieux que Brett Kulak? Le Canadien est-il mieux nanti? Michael, je peux te lancer là-dessus peut-être?
Ben écoute, l'échantillon est petit, alors on va être prudent, mais moi j'ai aimé ce que j'ai vu. Tu sais, c'est un gars qui s'adapte bien. Moi j'ai beaucoup aimé, bon positionnement. Tu sais, tu regardes 11 minutes 32, les 3 mises en échec sont dures, a été très bon. Moi je les ai trouvés très bons ensemble. Alors, tu sais, je veux être prudent parce que bon, est-ce que c'est un une version améliorée de Kulak, je sais pas, mais ce que j'ai vu, moi j'ai beaucoup aimé ça. Alors si c'est ça tout le temps, je pense que oui, ça va en être un, mais en même temps, tu sais, Kulak cette année, on peut dire quand même que c'est quand même une belle contribution de sa part. Donc moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, mais je vais me garder une petite gêne. Ouais. Un match, c'est pas beaucoup, puis on... Tu sais, les Oilers, là, c'est un peu capable du meilleur comme du pire. Hein. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup aimé la performance du Canadien, mais je veux quand même être prudent parce que des fois, ils me déçoivent tellement là, que
ben ouais,
j'ai hâte de voir dans les prochains matchs.
Beaucoup de manque de constance. Jérémy, je pense que tu as fait une analyse exhaustive là, du travail de John Merrill, si je ne me trompe
oui,
pas.
Ça sera dans un deuxième podcast.
OK, parfait.
4 heures exclusives sur John Merrill. Bon. Mais ça pour dire, c'est que moi, tu sais, Brett Kulak, je pense que Michael en a parlé, t'as pas grand-chose à y reprocher. La seule différence, c'est que Brett Kulak, si t'as le malheur de laisser tomber la corde, il part en avant. T'sais, c'est un gars qui a un bon coup de patin puis il part en avant. John Merrill fait pas ça. C'est un gars qui reste beaucoup plus en arrière. C'est un gars qui est très, très, très confiant avec la rondelle. C'est un gars d'expérience dans la Ligue nationale. Pour moi, ça fait une grande, grande différence sur la façon dont Romanov peut évoluer. T'sais, Romanov, on le sentait... Par moments, il cherchait un peu avec Merrill pour savoir où se trouver sur la patinoire. On a vu que plus le match avançait, plus qu'on commençait à trouver une certaine chimie entre les deux. Mais clairement, pour moi, c'est un ajout important, John Merrill. Puis absolument rien contre Kulak, mais dans les circonstances, c'est ça que t'as besoin. C'est pas compliqué. C'est ça que t'as besoin. Puis ça vient combler un manque de juste de confiance avec la rondelle dans le territoire défensif. Pour moi, c'est immense pour Merrill.
Bon, parlons.
Juste un petit bémol en passant. Tantôt, Michael évoquait le 11 minutes 32. Après le match, Dominique Ducharme avait laissé entendre, par exemple, qu'il y avait des erreurs dans les chiffres. Puis effectivement, moi-même, j'avais l'impression qu'il avait joué quand même plus que ça. Un joueur qui joue 11-32, tu le vois pas beaucoup, là. Je suis pas mal sûr que c'était plus près de 15 minutes qu'il avait joué. Le seul petit bémol, moi, que j'apporterais, c'est que Brett Kulak aussi a été capable d'en jouer des bons matchs de temps en temps. Merrill en a joué un bon, là, aucun doute là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, des 5e, 6e défenseurs, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est des 5 ou 6. C'est que, écoute, c'est pas tout le temps constant. Quand t'en trouves un qui est constant, tant mieux. Mais c'est pas évident. Puis j'ajouterais même Victor Mété aussi, ça y est déjà arrivé d'en jouer des bons. Exactement. Mais il arrive au match d'après, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que.
Nous autres, on a des gars, même dans le top 3, qui ont de la misère constance.
Mais si t'as un 6e défenseur à 3 têtes avec Merrill, Kulak puis Gustafsson, moi, j'ai pas de misère avec ça. Ouais. Tu sais, garde ça de cette façon-là, puis tu prends le meilleur de tout le monde quand c'est le temps.
Ben, c'est ça, exact. T'as des options. Puis même à la limite, si Romanov devait retomber dans un gros, gros creux de vague, ben, à la limite, lui aussi, tu le mets dans la rotation. Mais disons que les signaux sont encourageants pour Romanov.
Bon, étant donné qu'on parle des défenseurs, là, bon, cette semaine, il y a eu quand même une déclaration de Shea Weber qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. On n'a pas eu la chance d'en parler parce que c'est arrivé après notre dernier épisode. Mais bon, lorsqu'on a posé la question à Shea Weber, à savoir qu'est-ce qu'il pensait de son propre jeu, et ça, c'est une question qui avait été posée avant le dernier match, là, où il a quand même mieux joué, il faut le mentionner. Mais il a dit, il n'est pas état de parler de mon jeu, étant donné que le hockey, c'est un sport d'équipe. Et là, ça fait grincer bien des gens parce que on s'est dit, mais coudonc, il est pas capable de se regarder dans le miroir, il est pas capable de prendre le blâme, c'est le capitaine, il devrait de montrer le fait qu'il est imputable et tout ça. Moi personnellement, j'ai pas aimé sa réponse. Puis je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais il parle jamais de son jeu, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Mais si quand tu joues bien, tu veux te garder cette gêne-là, puis dire, je veux pas parler de mon jeu, j'aime mieux parler de l'équipe, parfait, puis tu vas avoir l'air juste d'un gentleman quand tu vas le faire. Mais quand tu joues mal, c'est une autre histoire. Là, tu sais, je pense qu'il faut que tu te regardes dans le miroir, surtout quand tu es capitaine. Guillaume, étant donné que tu assistes à tous les points de presse, comment as-tu interprété cette réponse-là?
Ça, puis je suis également un des 4 qui a essayé de lui poser la question. Pour vrai, dans le fond, cette réponse-là est arrivée à la toute fin. C'était Marc-Antoine Godin qui était, si mon compte est bon, le 3e ou le 4e à lui demander d'une quelconque façon, peux-tu nous donner une évaluation de ton jeu dernièrement, tout ça. Ouais. À chaque fois, il contournait la question, puis Marc-Antoine, il a posé de la façon la plus directe, puis là, il a fini par répondre ce qu'il a répondu. Donc, j'ai tenté ma chance, moi aussi. Et oui, je suis un peu d'accord avec toi, surtout que, tu sais, c'est sûr que Ce qu'il faut pas oublier à Montréal, là, on a eu Max Pacioretty comme capitaine hein, pendant plusieurs années. Max Pacioretty, la moindre petite affaire qui allait pas, il nous le disait, puis il restait 15 minutes après un match pour nous l'expliquer en long puis en large, puis il en prenait beaucoup, il prenait beaucoup de chaleur sur lui, là, si vous me permettez l'expression. Et c'est ça, il se gênait pas pour s'autocritiquer, pour décortiquer son jeu, tout ça. Chez Weber, c'est pas ça. On le comprend tous. Et quand on posait la question à Shea Weber pour qu'il évalue son jeu, je pense pas que personne s'attendait à ce qu'il nous donne le détail exactement là, de ce qui va pas, puis pourquoi ses sorties de zone sont pas bonnes, pourquoi. Mais ça serait pas non plus, je pense, très difficile de juste dire ben c'est une période difficile pour toute l'équipe, moi y compris, puis je dois mieux jouer. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un petit peu ça, moi, qui m'a déçu, c'est que sans nécessairement entrer dans une analyse en détail, il y aurait quand même eu moyen de juste reconnaître, ben oui, c'est pas facile, je dois faire mieux, mais mm-hmm. Puis ça vaut pour l'équipe aussi. Puis that's it. Puis tu dis ça, puis il n'y a pas d'histoire, c'est fini.
Je pense qu'on est tous d'accord avec toi, puis je pense que c'est la réflexion de la majorité des gens, mais je veux entendre.
Non, moi, je suis pas d'accord.
Non, mais, non.
Ben, vas-y, Michael, avant, moi, je vais finir en dernier, moi.
Ben, écoute, moi, j'ai été très déçu, premièrement pour toutes les raisons que Guillaume m'a dit, mais aussi parler, mais aussi sur le fait que, tu sais, la crise actuelle, puis son jeu, là, c'est pas un match, deux matchs, trois matchs, là, ce sont des semaines.
Ouais.
Où est-ce qu'il c'est très difficile pour lui. Il y a un contexte aussi à tout ça, là. Premièrement, le coach canadien se fait congédier, là, une bonne partie du personnel d'entraîneur. Là, on nomme un entraîneur par intérim, et là, l'équipe va pas très bien, l'équipe va, tu sais, est dans un creux de vague. Cet entraîneur-là est un peu monoté, il peut pas faire de changement. Il y a des critiques à son sujet. Tu sais, à un certain moment donné, il y a comme une boule de neige. Puis là, la balle de neige était rendue pas mal grosse. Moi, je trouve que le capitaine a un certain rôle à jouer. Pas qu'il s'autoflagelle en public, là. On ne lui demande pas ça. Puis c'est pas un désaveu pour la personne qui est. C'est quelqu'un de discret. Tout le monde respecte ça. Mais tu sais, un petit peu d'introspection de temps en temps, là. Même si t'es pas pour, tu sais, commencer à faire un chemin de croix, c'est pas ça. Mais juste un petit peu faire sentir aux partisans que, tu sais, comme, oui, tu te regardes dans le miroir, et comme Guillaume l'a dit, c'était pas compliqué de juste faire un petit bout de chemin, de dire l'équipe joue pas bien, moi y compris, puis on doit absolument s'en relever. C'est le désintérêt, l'impression de donner que tu t'en fais pas tant que ça. Ça fâche les partisans. On l'a vu par la réaction sur les réseaux sociaux, d'un côté et de l'autre. Alors là, maintenant, je laisse la place à Jérémy pour expliquer son point. J'ai hâte d'entendre
l'avocat du diable
là-dessus.
L'avocat du diable.
Ah non. L'avocat du diable est assez occupé, il est partout. Il y a tout le temps quelqu'un du monde, mais on va faire l'avocat du diable. Il y a pas mal de contrats dans la vie. Mais tout ça pour dire, dans un premier temps, je veux juste dire une chose, c'est que je comprends, j'ai fait ça avec Guillaume, c'est en 2012, d'être là, 2011, puis de poser des questions et pas avoir de réponse. Ça, je comprends la frustration parce que c'est ta job de poser une question, puis quand la personne ne veut pas répondre à cette question-là, que tu considères une question intelligente, là, tu sais, t'arrives pas pour dire « donne-moi ton nip », là, quand même, c'est pas ça que tu t'attends. Mais ça, je comprends la frustration. D'un autre côté, j'aimerais ça qu'on prenne un pas de recul puis qu'on regarde ce qu'on a besoin quand on écoute un point de presse. J'ai l'impression que ce qu'on veut, c'est d'être rassuré psychologiquement. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les bonnes réponses. Puis savez-vous quoi? Jonathan Drouin vous donne les bonnes réponses depuis tout le temps, mais il le fait pas sur la patinoire. Il vous a expliqué en long et en large qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Puis dans chaque point qu'il amène, il a raison. S'il faisait ça, ça serait sublime. La seule chose, c'est que tout ce qu'il dit, être plus proche de la rondelle, prendre des retours, il ne le fait pas dans le match. Fait que donc, je me dis, à quoi ça sert, là j'utilise un terme, à quoi ça sert de donner de la bullshit si tu le fais pas? Fait que donc, si moi, je regarde ça, je dis, Shea Weber décide de pas bullshiter le monde et de prouver dans le match après qu'est-ce qu'il est capable de faire comme l'ensemble de l'équipe, pour moi, je suis content, je suis satisfait de la réponse. Si ça avait été un autre match ordinaire et difficile, là, j'aurais dit, honnêtement, il aurait dû parler.
Ouais.
Mais là, il l'a prouvé sur la glace. Puis pour moi, ça vient expliquer tout ce qui se passe dans ce vestiaire-là. C'est un vestiaire qu'à un moment donné, ils se font bombarder. Ils ont 8 points d'avance. Puis là, ils se font bombarder de questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde panique quand eux, j'ai l'impression que eux, à l'interne, on sent qu'on est quand même en contrôle. Dominique Ducharme en a parlé dans un point de presse d'avant-match. Ouais. Tu sais, il a dit, notre position est quand même enviable. Il y a du monde qui aimerait être à notre place présentement. Fait que donc, voyez-vous, le niveau d'anxiété est pas pareil à l'intérieur du vestiaire et à l'extérieur du vestiaire. Selon moi, c'est mon observation. Là.
En même temps, tu parles de contrôle. Tu sais, quand l'entraîneur-chef de cette équipe-là dit que la perte d'un joueur, ça a amené l'équipe dans une crise d'identité, excuse-moi, le contrôle, je sais pas, il est où, puis faudrait que ça se matérialise sur la glace un peu de temps en temps. Là, on a eu un match, on a eu un échantillon de ça. Mais tu sais, ça fait des semaines, là. C'est pas une question de une semaine, tu sais, une ou deux semaines un peu moyenne.
Ça fait longtemps
qu'on parle de ça, là.
Ça a été mauvais pendant plusieurs semaines. En tout cas,
ajouter quelque chose. Excuse-moi, Philo. J'ajoute juste quelque chose là-dessus, là, sur l'histoire de la crise d'identité, là. Tu sais, je veux dire, c'est des mots que Dominique Ducharme a choisi. Malheureusement, il est tombé dans un des trois classiques des tribunes téléphoniques. Un, le Canadien va-tu faire les séries? Deux, Halak ou Price? Ou trois, c'est quoi l'identité du Canadien? Bang! Il sort crise d'identité. Tout le monde parle là-dessus, crise d'identité. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y en a un qui travaillait comme un malade, les dents dans la bande, puis là, quand il est parti, il n'y a pas personne qui a pris sa place. Là, à un moment donné, on s'est réveillé, puis on a dit, on va faire ça. C'est ça, l'identité.
Ce que je peux dire, c'est que suite à ce point de presse où il s'est fait poser trois fois la question, peux-tu nous parler de ton jeu? Ben, tabarouette, elle a sorti une grosse. Fait que là, je sais pas les boys.
T'as raison, Philo.
Puis regardez, si je peux prendre ta job d'avocat du diable, Jérémy aussi, il y avait quand même un petit point, tu sais, puis je l'ai dit, là, ça m'a peut-être un peu laissé sur ma faim, mais je parlais avec un ancien joueur qui restera anonyme et qui m'a souligné le lendemain de ça. As-tu remarqué, tu sais, je sais pas si c'était volontaire de sa part, mais as-tu remarqué, par exemple, que c'est une belle façon de prendre de prendre toute l'attention de façon involontaire? C'est-à-dire qu'en répondant pas, toute la journée, les questions étaient sur le capitaine, sur son leadership, sur ci, sur ça, et pas sur le reste. Ouais. Donc, personne n'a questionné pourquoi Suzuki et Kotkaniemi sont plus tranquilles. Pourquoi
pas que c'était planifié
exactement. Je pense pas que ce soit planifié, mais par contre, on sait qu'il y a des entraîneurs, des fois, qui font ça, qui vont faire une grosse sortie pour justement prendre l'attention sur eux puis enlever l'attention sur leur équipe. Je pense que John Tortorella, entre autres, est un expert de ça. Ouf. Donc, c'est des stratégies qui se voient des fois dans le sport. Maintenant, c'est ça. Je suis pas connaissant la personnalité de chez Weber. Je pense plutôt qu'il nous a répondu simplement ce qu'il ressentait en dedans de lui et qu'il a agi comme il est.
C'était la frustration, selon moi. Il était frustré. Le gars est frustré de voir comment il jouait. Tu sais, fait qu'arrête de me le demander. Là. Regarde, c'est un sport d'équipe. Là, puis c'est ça.
Ouais, en tout cas. Pas fort, moi, j'ai pas trouvé ça fort comme réponse. Mais en tout cas.
Bon, ben, toi, t'es un qu'un chialeux, toi.
Ben oui, je sais. Mais là, il y a eu une autre réponse qui a surpris un peu tout le monde. C'est celle de Jonathan Drouin. Lorsque le collègue Herb Zurkowski lui pose la question, bon, t'as seulement deux buts depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu peux faire de différent ou de plus? Et là, il a dit, ben, il y a une autre colonne à côté, si tu veux la consulter, la colonne des passes.
Mauvaise réponse.
Ben, ouais.
Mauvaise réponse avec un mauvais visage. Avez-vous vu les images? Écoute, il était en maudit, là. Il était vraiment en maudit, gars, là.
Mais il y a du contexte, là, aussi. Je veux dire, il avait passé le point de presse à, justement, s'autocritiquer, puis dire ce qu'il pouvait faire de plus, puis tout ça. On le sait, c'est pas la première fois qu'il nous le dit, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on sait que c'est pas parfait non plus, là. Mais c'est ça, tu sais, il avait quand même été...
Il
a fait le tour de la question, tout ça, tout le long du point de presse. C'était peut-être la question de trop. C'était pas la meilleure réponse, mais disons, ça s'excuse peut-être un petit peu plus, là, même si effectivement c'est pas la meilleure réponse. Et surtout que lui, contrairement à Weber, n'a pas enchaîné en disputant un grand match.
Ouais,
c'était quand même mieux que les autres avant. Honnêtement, là, Stahl a joué un pas pire match, Corey Perry a joué un pas pire match, puis lui a joué un pas pire match, honnêtement, aussi. Tant qu'à voir Drouin être invisible, au moins, il se passait quelque chose. Par moment, on sentait qu'il savait pas où se placer sur la glace avec Stahl. Là. Ça, j'ai trouvé ça. Mm-hmm. Mais au moins, il a fait quelque chose. T'sais. Puis la pénalité qu'il a pris en fin de match. Ouf. Écoute, tu sais, je veux dire, le gars, un bâton mou, frappe dans le visage. Moi, à un moment donné, là, le seul problème de Jonathan Drouin, c'est quoi? C'est son 5,5 millions. Là, ça, c'est à un moment donné, le monde, ils viennent complètement scindler avec ça. Sacrez-y patience. Lâchez-les tranquille.
Mais si tu sais bien qu'à Montréal, ça marche pas de même. Là,
ouais, mais je comprends, mais tu veux faire quoi? Tu veux le mettre dans un container? Non, tu peux pas. Il est obligé d'être là. Il est là. Il va être là. Fait que vis avec. Après, tu prendras des décisions. Mais présentement, t'es obligé de vivre avec. Lui est le premier qui est obligé de vivre avec ses performances qui sont J'en suis convaincu, en deçà de ses attentes. À un moment donné, lâche-les tranquille, là, tu sais. Si t'as la meilleure puissance de Ligue nationale en avantage numérique avec les deux meilleurs, deux du top 10 des meilleurs pointeurs, c'est sûr qu'ils vont marquer. C'est sûr que les Oilers étaient pour revenir. Là, après le match, écoute bien tout le monde sur Jonathan Drouin, c'est à cause de lui. Je suis plus capable Drouin, là, ça devient aussi contagieux pour moi que présentiel. Et, c'est des mots de même que je suis plus capable d'entendre.
Je comprends. Les gens ont des attentes élevées. Michael, juste compléter là-dessus, peut-être?
Ouais, ben, j'aurais le goût de dire, et c'est sûr que, tu sais, moi aussi, j'aurais le goût de dire, sacrifice patience. Le problème, c'est que le Canadien a quand même besoin de lui. Tu sais, ultimement, là, si cette équipe-là veut gagner en série, ils ont besoin de lui. Alors,
c'est quand même le meilleur passeur de l'équipe, là. Faut le mentionner avec 21 passes.
Ben oui, c'est ça. Puis alors, ça, c'est dans la colonne des passes. Là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas de passes. Tu sais, il y a deux passes dans les 13 derniers matchs. Il est à moins 7 dans ces 13 matchs-là. Alors, tu sais, il y a plusieurs colonnes où est-ce qu'il y a de la difficulté. C'est pas que la colonne des buts, là. Alors, en tout cas, bref, on va espérer que c'est ça. Que lui aussi retrouve le droit chemin.
Ben c'est ça, parce que pour ajouter à ce que tu dis, je veux dire, oublions pas que là, dans le fond, il est dans le quatrième trio depuis le dernier match. Ça veut dire que dans ton top 9, t'as Paul Byron puis Arturi Lehkonen qui sont de vaillants soldats, tout ça, mais on s'entend que dans un monde idéal, c'est des joueurs que t'as mieux voir dans ton quatrième trio. Et là, ben c'est ça.
Chacun le double de but de
Drouin. Non, mais tout à fait. Non, c'est ça. C'est pas des vilains joueurs ou rien, mais je pense que n'importe quel entraîneur aimerait mieux les voir sur une carte.
Bon, les gars, Kaden Primo, normalement, devrait garder les buts dans un des deux matchs contre les Flames. Maintenant, je pose la question, c'est quoi le plan pour Kaden Primo? Il est rendu où dans sa progression? Peut-être que Michael, je ne sais pas si tu as suivi de plus près les matchs du Rocket que nous, mais pendant combien de temps? Tu sais, normalement, là, nonobstant Price, Allen et tout ça, est-ce que Kaden Primo, c'est un gardien qui, normalement, pour l'année prochaine, devrait faire le saut dans la Ligue nationale ou est-ce qu'il y a encore besoin de travailler dans la Ligue américaine?
Ben écoute, je pense que du millage de plus, ce sera pas du millage de trop dans son cas. Tu sais, c'est un choix quand même lointain. C'est pas la superstar. Même si c'est un super bel espoir, je pense, pour le Canadien, ils ont tout intérêt à être patients avec lui, continuer à travailler. Tu sais, je suis persuadé que le temps passé à Laval, c'est du temps précieux en ce moment pour lui. Bon, qu'il y ait des auditions, aucun problème avec ça. Mais tu sais, de le jeter dans la gueule du loup, c'est pas vraiment ça. Mais tu sais, peut-être de le brûler trop vite ou de le mettre de l'avant trop vite avec le profil de gardien qu'il est. Moi, j'aime ça le voir dans la Ligue américaine. J'aime ça le voir acquérir de l'expérience et tout ça. C'est plus ce genre de profil de gardien-là qu'un jeune gardien, un choix de première ronde, tu sais, top 10 dans un repêchage. C'est pas ça Kaden Primo. Même si, à mon avis, à moi, tu sais, il a glissé bien trop loin, puis c'est un aubaine que le Canadien a fait en pouvant le repêcher à ce rang-là. Mais le fait qu'il ait de l'expérience dans la Ligue américaine, moi, je pense que c'est la meilleure chose pour lui. Puis de pas précipiter les choses avec lui, c'est bien parfait.
Parce que c'est pas un vétéran, Kaden Primo, c'est pas un Jake Allen. Donc si mettons Allen devait partir cet été à Seattle ou peu importe, est-ce qu'on veut monter Kaden Primo puis donner la job de numéro 2 puis tu sais est-ce que c'est mieux pour son apprentissage? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'on est un peu pris dans un genre de no man's land pour Kaden Primo. Étant donné la situation actuelle.
Ben, no man's land, oui et non. C'est-à-dire que des gardiens numéro 2 sur le marché des joueurs autonomes, il y en a tous les étés. T'sais. Donc, c'est pas trop dur quand même d'en trouver un pour boucher un trou pendant un an. Mm. Donc, moi, c'est pour ça que je pense, même si Jake, oui, ça serait une lourde perte là, si le Canadien perd Jake Allen, mais tu peux trouver un numéro 2 quand même correct sur le marché.
Donc, toi, tu verrais pas Kaden Primo comme numéro 2 l'année prochaine?
Moi, j'attendrais. Hein? Il est juste rendu, il y a seulement 49 matchs de jouer dans la Ligue américaine dans toute sa carrière, dans le fond. Ouais. Il est sorti du collège, il avait 19 ans. Là, il est sorti jeune du collège. Il a fait deux saisons. À la fin de sa deuxième saison, il avait encore 19 ans, pas encore 20 ans. Sort de l'école, s'en vient chez les pros. Puis là, ben c'est ça. Donc, 49 matchs dans la Ligue américaine, c'est l'équivalent d'une saison complète, dans le fond, pour un gardien numéro 1. C'est pas énorme pour son âge. Puis tu sais, Michael, tantôt, tu parlais, tu disais, c'est pas un choix de premier tour, un haut espoir, mais même prenons Carter Hart, qui est un choix de deuxième tour, bien en vue, seulement joué 18 matchs en Ligue américaine, puis écoute, ça a bien été pour une saison et demie, là, mais cette année, c'est très, 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 très difficile.
Jérémy, quelque chose à rajouter là-dessus sur Primo?
Ben écoute, je suis intrigué de voir comment ça va se passer pour lui face aux Flames de Calgary. Puis on souhaite le meilleur pour lui parce que le plan, c'est qu'à un moment donné, devienne le deuxième gardien de but et par la suite devienne le premier gardien de but. Puis j'ai juste été surpris tantôt, Philo, de t'entendre dire si jamais Jake Allen est réclamé au repêchage d'expansion par Seattle. Je suis surpris, j'ai pas entendu Carey Price que t'avais pas protégé pour laisser la place pour
Seattle. Ben écoute, on est obligé de le protéger, donc que je veuille ou que je veuille pas, je pense que malheureusement, c'est hors de mon contrôle, mais oui, c'est sûr que dans un monde idéal, si le Canadien est capable de libérer 10 millions et demi sa masse salariale,
j'ai réveillé la bête, excusez-moi.
t'as mis 30 sous dans la machine.
Non, ben, je pense que vous connaissez déjà mon opinion sur le sujet, donc je leur lancerai pas. Alors, on s'arrête le temps d'une pause, les gars, puis on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde du hockey et dans la Ligue nationale. Nous voilà de retour maintenant et on va aller faire un tour, voir ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, mais aussi dans le monde du hockey. La Ligue nationale de hockey a l'intention de relancer sa prochaine saison le 12 octobre. L'entre-saison sera donc très courte pour certaines équipes qui vont se rendre loin en séries éliminatoires. Est-ce que c'est suffisamment de temps de repos pour ces équipes-là? Personnellement, j'aurais peut-être repoussé de quelques semaines, mais je pense que c'est important de recommencer au mois d'octobre pour essayer de retrouver... Un certain calendrier normal de hockey qu'on n'a pas là, depuis presque 2 ans là, maintenant. Là.
Ouais, mais ben, tu sais, c'est ça, c'est vrai que c'est court. En même temps, c'est la première date que la Ligue met. S'il y a une chose à laquelle on est habitué depuis un an, c'est qu'il y a des reports. Là, donc, c'est pas impossible qu'ils visent le 12 puis que finalement, OK, on va y aller autour du 25. Et sinon, s'ils devaient commencer le 12, ben oublions pas que ça sera la chance de revenir à des calendriers normaux. Puis dans des calendriers normaux, tu sais, souvent, tu joues 3 matchs par semaine. Le Canadien, une semaine normale, tu joues le samedi, le mardi puis le jeudi, ben il n'y a rien qui empêche ces équipes-là aussi d'adapter à ce moment-là leur calendrier et puis de donner un petit peu plus que les 4 congés obligatoires. T'sais, est-ce que, sachant tout ça, est-ce que tu donnes un congé le dimanche, mais aussi peut-être le mercredi entre les 2 matchs? Je pense que les équipes vont quand même être capables aussi de s'adapter, si, particulièrement celles qui se rendront loin en série là, pour s'assurer que ce ne soit pas un problème.
En tout cas, pour que tout ça arrive aussi, il va falloir que les frontières soit ouverte parce que sinon on va être obligé de poursuivre dans la formule actuelle. Je sais pas, Jérémy et Michael, si vous avez d'autres choses à ajouter sur le début de saison qu'on a suggéré présentement du 12 octobre.
Je peux juste ajouter quelque chose, c'est que sincèrement, depuis le début de la saison, je me régale de la division Nord. Puis là, je commence à être tanné, honnêtement. J'aimerais ça affronter, voir les Canadiens affronter d'autres formations, Tampa Bay, Washington, Boston. Ce serait peut-être des défaites, oui, mais voir le niveau où est rendu le Canadien, ça commence à me titiller. Parce que, tu sais, tu arrives, t'es en compétition, tu t'en vas, t'arrives en demi-finale de la Coupe Stanley, et puis là, t'affrontes d'autres clubs. Ça peut être intéressant de voir comment le Canadien va se débrouiller, mais moi, j'ai hâte au prochain début de saison, ça, c'est sûr et certain.
Moi, je l'ai dit.
Le plus rapidement possible.
À plusieurs reprises, moi, j'aurais aucun problème à ce qu'on poursuive avec la division canadienne, sauf que faudrait vraiment réduire le nombre de matchs contre chacune des équipes et surtout coller des matchs comme on fait présentement, là, en peu de jours, si jamais on veut le faire, mais tout en jouant contre les autres équipes aussi des autres divisions. Ça, c'est certain. Mais tu sais, je pense à la division métropolitaine, là, je vais l'appeler de même. Eh, écoute, eux autres, ils doivent-tu trouver que c'est le fun? Toutes les villes sont proches, tu sais, les voyages sont courts.
Mais oui, dorment dans leur lit à peu près tous les soirs.
Exactement. Essaye de le demander aux autres si ça leur tente de revenir, là. Je pense pas.
Ouais, mais en même temps, la division métropolitaine, même en temps normal, est quand même, c'est quand même une division où le voyagement est très, très, très raisonnable. Ouais, donc, ouais. Je pense qu'ils sont quand même très gâtés, eux autres. Mais moi, personnellement, je reprendrais quand même 5 matchs contre les Bruins avant de prendre 5 matchs contre les Flames. Donc, j'ai hâte qu'on revienne au
les Flames. Il y a des coups, les Flames.
Oui, puis là, Sutter, c'est pas juste un intérim, ça va être plate pendant une couple d'années.
Aïe. Non. Quand on sait que c'est les Flames, là, l'adversaire, là.
Yep.
Okay, prépare-toi une coupe de café parce que ça risque. Il se passera pas grand-chose.
Ben voyons donc, toi, arrête donc, là.
Ben non, mais c'est voyons donc, là.
Avoir le 2-3 contre le Canadien, si c'est somnifère, ces matchs-là.
Je te texte, là.
On va changer de job.
Je te texte à soir après la deuxième, là. On va voir si t'es encore réveillé.
C'est sûr, voyons.
Michael, je te lance sur le prochain sujet. Robin Lehner n'est pas très heureux de voir que malgré le fait que certains joueurs ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Les protocoles de la Ligue nationale ne changent pas. Il indique que les joueurs ont été forcés, dans certains cas, de recevoir le vaccin en se faisant, entre guillemets, promettre que c'était pour le bien de l'équipe et que ça, ils allaient retrouver une certaine liberté. Mais du côté de la Ligue nationale, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut pas faire de favoritisme. Parce qu'il y a des équipes où les joueurs ont reçu les deux vaccins, il y a des équipes où ils en ont reçu un vaccin, il y a des équipes qui n'ont pas reçu de vaccin. Fait que là, lui dit, si on commence à donner l'avantage à une équipe, ceux qui ont là, ben là, on a un avantage compétitif. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben écoute, c'est lié à cette situation-là, le fait que ça soit pas partout, tu sais, ça soit, il n'y a pas une place que c'est la même chose. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, il y a comme un flou. Puis, tu sais, je peux comprendre la frustration parce que le prix, tu sais, on impose quand même, on impose un protocole qui est assez strict, qui est difficile quand même pour tout, pour toutes les familles, des joueurs, ce que c'est devenu comme, tu sais, oui, on a limité le voyagement, il y a toutes sortes de mesures qui ont été prises, mais tu sais, pour les joueurs, on leur demande beaucoup de sacrifices dans tout ça. Là. Et le fait qu'il n'y ait pas de retour sur l'investissement, entre guillemets, là, du vaccin, c'est sûr, c'est frustrant. Mais tu sais, dans le fond, en ce moment, on vit ça à la planète tout entière, là, que la vaccination se fasse assez bien ou très lentement, c'est long avant de retrouver des assouplissements de règles et tout ça. Alors, je peux comprendre la frustration, mais tu sais, en ce moment, dans la Ligue nationale, tu regardes le portrait, là, puis tu sais, ça varie tellement d'équipe en équipe, dans les marchés respectifs, dans ces villes-là aussi, dans certains États. Alors, tu sais, moi, je comprends la Ligue nationale, mais c'est sûr que je peux comprendre la frustration des joueurs. On leur demande beaucoup, et en ce moment, c'est comme si que ça change rien. Vacciné, pas vacciné. Alors,
en fait,
ce qu'on dit
présentement, c'est que ça va probablement aller à l'année prochaine. Tu sais que les protocoles qui sont en place présentement, malheureusement, va falloir les respecter jusqu'à la fin de l'année. Puis après ça, pour l'année prochaine, on espère que ce sera différent. Mais tu sais, en même temps, je comprends le gars qui dit, ben nous, on a obtenu nos deux vaccins, on a fait ce qu'on avait à faire. Puis selon ce que je comprends, parce que la Ligue s'est défendue et a dit, nous, on force personne à être vacciné, mais selon tout ce qu'on comprend, c'est que les organisations suggèrent fortement aux joueurs de se faire vacciner. Donc,
j'ai hâte que ça embarque ici au Canada également. Tu sais, j'ai hâte que ça embarque ici au Canada. Puis, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si Guillaume, tu peux corroborer ce que je vais dire, mais là, peut-être une semaine ou deux, on a vu le Canadien de Montréal qui s'associe avec IGA, je pense, et quelques compagnies pour dire nous, on va aider par de l'argent. Je pense que c'est 5 millions de dollars pour aider à la vaccination. Par même temps, on pourra vacciner nos employés. C'est ce que je lisais dans le communiqué de la Ligue nationale. Fait que donc, ce qu'on comprend, c'est que dans peu de temps, assurément, les joueurs du Canadien vont avoir accès à des vaccins, tu sais. Écoutez bien, si moi, je suis rendu que j'ai le droit de me faire vacciner, j'espère que la Ligue nationale a le droit de se faire vacciner.
Oui, de toute façon, on sait que la population générale, ça a été dit, là, la force, c'est la prochaine catégorie qui va être débloquée. Donc, tu sais, ça reste que ça devrait venir rapidement. Après ça, bon, je suis curieux de voir comment, après ça, le Canadien va s'y prendre. Est-ce qu'ils vont demander individuellement à leurs joueurs de faire des démarches ou est-ce que l'équipe va réussir à avoir des doses? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça s'annonce comme un terrain glissant peut-être là, pour une équipe.
Juste pour faire mon parallèle habituel avec l'Impact, là, j'en fais à peu près un par émission, mais l'entraîneur de l'Impact a dit on a essayé de faire comprendre aux joueurs que ça allait peut-être même les affecter eux s'ils peuvent se déplacer, s'ils peuvent pas se déplacer, faut qu'ils fassent une quarantaine, faut pas qu'ils fassent la quarantaine. Donc tu fais comme tu veux, mais comprends que si tu fais pas vacciner,
ta vie va être compliquée. Ben oui.
T'sais? Donc c'est ça, on suggère fortement.
CF Montréal, Philo, CF Montréal.
Oh, regarde. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Pour moi l'Impact ça va rester. C'est comme Canadien. Le Canadien, c'est le Canadien, c'est le tricolore, c'est les Habs, c'est il y a 14 façons de le dire. Fait que moi, l'Impact, ça reste, puis ça va être une de mes façons de les identifier. Puis
c'est tout.
That's all. maintenant, j'ai un dernier sujet ailleurs dans la Ligue nationale ou dans le monde du hockey, mais c'est aussi une question d'un auditeur qui nous envoie ça via Twitter. C'est Marc qui nous pose la question. Va-t-il y avoir un intérêt de la part des joueurs pour participer au championnat du monde de hockey sur glace à la fin, mais considérant la saison écourtée mais exigeante et aussi la pandémie? Je sais pas, Michael, si tu veux commencer là-dessus, parce que on a déjà entendu des rumeurs que plusieurs joueurs se disent « Écoute, là, après ce que je viens de vivre cette année... » regarde, moi, je retourne chez nous, puis je vais aller me reposer, je vais aller voir ma famille, je vais passer mon tour. Je pense que ça risque d'être difficile d'organiser ce tournoi-là cette année.
Ben, c'est sûr. Puis la sortie de Robin Lehner, dans le fond, c'est un peu en lien avec ça. Écoute, les sacrifices pour des joueurs sont énormes. Bon, oui, ils font des métiers payants, ils font ce qu'ils aiment dans la vie, jouer au hockey et tout ça, mais ça demeure quand même pour les familles de ces joueurs-là pas facile, puis pour les joueurs non plus. Alors, de prolonger ça, prolonger le plaisir, en sachant que la saison risque de recommencer rapidement. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs joueurs qui seront pas si intéressés que ça à vouloir participer à ce championnat-là. C'est un peu triste dans le sens parce que on aime qu'il y ait des joueurs de talent et tout ça, mais ça risque d'être des jeunes joueurs, puis une opportunité peut-être pour certains joueurs qui veulent prouver certaines choses, impressionner certaines équipes. Mais moi, je me mets dans la peau de certains vétérans qui ont beaucoup donné. C'était une année difficile pour tout le monde. Puis à ceux à qui on demande beaucoup de sacrifices, ben ils vont vouloir passer du temps avec leur famille. Ouais. En tout cas, je me mets dans leur peau, ce serait mon choix.
Peut-être les plus jeunes, c'est ceux qui n'ont pas de famille, puis ont peut-être pas obtenu les minutes de jeu qu'ils auraient espéré cette année, ont peut-être accepté le rendez-vous.
Mais ça reste que, tu sais, l'autre chose, c'est que ça, ne serait-ce qu'en termes de logistique, ça sera pas évident. Le tournoi commence le 21 mai et il y a des équipes qui jouent jusqu'au 17, 18, 19 mai là, dans la Ligue nationale. Tu sais, donc premièrement pour se rendre, ça va être difficile. L'autre chose, le championnat a lieu à Riga. Si t'es un Canadien, un Québécois et que tu vas y participer, ça veut-tu dire que tu dois faire deux semaines de quarantaine en revenant?
Peut-être.
Est-ce que ça tente de faire une autre quarantaine après?
C'est sûr que
donc, je pense qu'il y a ça aussi là, à quoi il faut réfléchir. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai l'impression que ça va être sûrement plus facile de convaincre des jeunes qui n'ont pas joué beaucoup au hockey cette année, voire même des joueurs de Ligue américaine. Donc, c'est ça. Des gars qui ont pas eu de série, qui n'ont pas assez joué, qui ont besoin de se développer, tout ça. Mais des joueurs de Ligue nationale, je pense qu'à part peut-être là, des Européens, disons, qui vont aller participer au tournoi puis ensuite vont rentrer à la maison, peut-être. Mm-hmm. Mais de voir des joueurs, en tout cas, du moins des Canadiens, participer dans l'état actuel là, des restrictions, je serais très, très, très surpris.
Ouais. On va trouver une façon. Je suis convaincu qu'on va trouver une façon parce qu'on l'a fait avec les moins de 20 ans, puis on a trouvé une façon de s'arranger. Ah oui. Puis on a fait une quarantaine. Puis, tu sais, la Fédération internationale de hockey trouve toujours une façon pour que ça marche pendant ce temps-là.
Ça va commencer. Ça va ressembler à la Coupe Spengler, cette affaire-là.
Ouais, mais écoute, pendant ce temps-là.
Ouais, mais c'est juste parce que ces trucs-là, c'est facile à faire avant le tournoi. T'sais, dans ce cas-là, c'est qu'on a assoupli ces quarantaines-là, ouais, puis les mesures pour leur permettre d'arriver et de disputer le tournoi. Mais après le tournoi, c'est quand même plus difficile à justifier. Puis en plus, le Canada, dans ce cas-là, disons, c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, le championnat du monde junior, t'as l'intérêt parce que c'est un événement que tu accueilles dans ton pays. Il y a des gouvernements qui attendent après cet événement-là, qui sont contents. Ça fait du monde en ville, tout ça. Mais le gouvernement canadien n'a absolument aucun intérêt à envoyer des joueurs là-bas.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la Fédération internationale de hockey va faire des pieds et des mains pour que son championnat soit là.
Oui,
et chez les dames, on annule le championnat. Tu comprends-tu? Oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, on met beaucoup d'efforts, d'argent, de financement pour s'assurer que les hommes puissent avoir le championnat mondial de hockey. Puis on annule le championnat pour les femmes. Si tu mets de l'effort pour les hommes, mais les mêmes efforts pour les femmes.
Ouais.
En quelque part, là, soyons logiques. Là. Ou sinon, si ça coûte trop cher, ben zip les deux. Si tu veux pas que les femmes jouent, ben les hommes jouent pas non plus. Mais pour moi, il y a un petit côté illogique à tout ça.
Ouais. Bon, on s'arrête les gars et on va revenir avec les questions du public. Nous voilà de retour maintenant avec les questions du public. On va commencer avec celle de Francis Carrière. Est-ce qu'on peut espérer que Bergevin mette Price sur la liste des joueurs blessés à long terme pour pouvoir profiter de la place sur la masse salariale d'ici la fin de la saison? La première chose, c'est que je pense pas qu'une organisation peut choisir de mettre un joueur sur la liste des blessés à long terme. Si le joueur se dit apte à jouer, d'après moi...
Tu vas avoir un grief.
Ben, c'est ça, exactement, la convention. Donc, je pense pas qu'on pourrait...
C'est ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que comme c'est une commotion, on le sait, là, c'est très, très, très difficile de prévoir la guérison. Et dernière chose, supposons que tu le fais, là, pour en prenant la chance que ça va être comme ça. et que là, Allen ou Primo se blesse, là, t'es sérieusement dans le trouble et tu te places dans une situation, dans un point de non-retour, dans le fond, pour terminer la saison. Donc là, c'est quoi? Tu finis la saison avec Primo puis Lindgren pour ta course aux séries. C'est vraiment, vraiment pas idéal. Donc,
mais
moi, je pense que...
Si t'as gagné tes deux matchs sur toi contre Calgary, t'es correct.
T'es correct. mais tu sais, je sais même pas si ça aiderait le Canadien parce que, justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui a posé la question à Dominique Ducharme, à savoir... Est-ce que la blessure à Price vous aide ou vous ennuie dans vos problèmes de plafond salarial? Puis il a dit non, ça rend la situation pire. C'est pire. Donc, je sais pas là, comment on pourrait s'organiser pour faire une une pirouette là, pour que ça puisse fonctionner. Mais j'ai pas l'impression que... En tout cas, je pense que, comme tu viens de le mentionner, c'est une commotion cérébrale. On va suivre l'évolution de cette blessure-là, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de plus. Jack Kerouac qui nous pose comme question, est-il maintenant possible d'insérer Cole Caulfield dans l'alignement? Je pense qu'on a eu une réponse à ça aujourd'hui, encore une fois, hein? Dominique Ducharme a dit que c'était pas possible, toujours pas possible.
C'est ça. Il n'y a rien vraiment qui a changé par rapport à ça, là. Donc c'est toujours les deux mêmes questions. C'est serré sous le plafond salarial et ça brûlerait le dernier appel. Donc ça condamnerait Jake Evans à ne plus jouer cette saison à moins qu'il y ait une blessure. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs
à considérer. Mais Michael, par contre, ben c'est ça.
C'est quand même triste parce que là on voit qu'au fils d'un gradin tout ça, il joue pas. Moi pour je comprends là, bon, côtoyer l'équipe, tout ça, mais en même temps, tu sais, il me semble que les bénéfices en ce moment pour lui sont à peu près nuls.
Mais la question.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Écoute, Romanov a fait ça l'année passée dans la bulle avec l'équipe.
Ouais, mais il avait joué professionnel, Jérémy.
Je suis d'accord, mais c'est peut-être justement mieux encore parce que le gars part universitaire. Tu sais, tu rencontres les gars, tu t'as pas de pression de jouer. Tu vis, c'est quoi la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que l'idéal aurait été et il serait que ce gars-là embarque au moins un match dans son passage ici avec le Canadien avant que le plafond salarial soit caduc pour le début des séries, là. Je veux dire, ça serait ça l'idéal. La seule chose, c'est que là, malheureusement, on n'arrive pas. On se fait prendre un peu avec les tenants et aboutissants du plafond salarial. Mais sincèrement, cette expérience-là, pour moi, est majeure. C'est le fun. C'est parfait. Ouais. Je veux dire, c'est le fun avec les gars de la Ligue américaine, mais c'est le fun de la Ligue nationale aussi. Là.
Mais le gars, là, cette année, là, il a joué à l'université, il a joué avec l'équipe nationale. Là, il revient, il est rappelé, mais là, il fait une quarantaine, fait qu'il est à l'hôtel puis il fait rien. Là, il revient au jeu, il joue avec Laval quelques games. Là, il retourne à pas jouer. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, je pense que le Rocket, là, ils ont repris, là, les matchs. Personnellement, tant qu'à pas le faire jouer ici, j'aimerais ça qu'il retourne en bas puis qu'il joue au moins la fin de la saison avec le Rocket. Oui ou non, je me trompe-tu ou...
Non, mais il va peut-être retourner au retour de l'équipe. Là, l'équipe est dans l'Ouest jusqu'à lundi. Peut-être que mardi, il va retourner. Ouais. Tu sais, on connaît pas la situation. Vont-tu aller loin un jet privé pour qu'il retourne pour pas qu'il soit en quarantaine?
Probablement pas, c'est ça. Je pense que il va finir le voyage, ça va être ça. Mais j'entendais Michael, c'est ça, évoquer... Tu commençais à évoquer le nombre de matchs, c'est ça. Tu sais, pour le moment, Caulfield a quand même joué 40 matchs cette saison. 31 avec à l'université, 2 à Laval, 7 avec au championnat du monde junior. Il va jouer d'autres matchs, que ce soit à Montréal ou à Laval, il va finir par en jouer d'autres. Donc, je veux dire, au bout du compte, si on prend un pas de recul, puis on regarde ça. Dans les circonstances de cette année, là, s'il finit son année, puis qu'il joue environ quoi 45 matchs peut-être, ça sera quand même pas non plus une catastrophe. Là,
bon, en tout cas, j'espère que la semaine prochaine, lorsqu'il va revenir, s'il n'y a pas de place pour lui dans l'alignement, qu'on va l'envoyer au moins à Laval, on va pouvoir le regarder jouer avec le Rocket. Maintenant, dernière question de Yannick Beaudoin qui me demande, après la saison du Rocket, engagez-vous Joël Bouchard comme coach associé pour ne pas le perdre à une autre formation. Là, c'est sûr que c'est sa troisième année avec le Rocket. À un certain moment donné, lui aussi va vouloir que sa carrière évolue. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui sera l'entraîneur la saison prochaine, donc c'est difficile de répondre à cette question-là.
Et qui sera le directeur général aussi?
Ouais, normalement, je pense que ça devrait être Bergevin.
Non, mais regarde, mettons, le Canadien se fait sortir en 4 première ronde des séries. Marc Bergevin, il sera plus là, là.
Non, mais je pense que après cette saison, là, faut que tu t'assoies avec Joël Bouchard, puis tu lui demandes, tu sais, t'en es où présentement, toi, dans ta carrière? Es-tu à l'aise où ce que t'es présentement, ou est-ce que tu as l'ambition très prochaine de monter dans la Ligue nationale? Parce que je pense pas que tu vas vouloir l'échapper pour rien. Là.
Mais c'est peut-être Joël Bouchard qui va s'asseoir avec le Canadien pour leur demander, vous en êtes où par rapport à moi? Là? Avez-vous, tu sais, est-ce que pour vous, je suis un gars qui va développer vos jeunes dans la Ligue américaine, ou vous êtes prêt à me laisser une place plus grande que ça au sein de l'organisation? Moi, je pense que, tu sais, ils vont en être là parce que, tu l'as dit, là, c'est sûr qu'il va vouloir un avancement. C'est un gars qui est passé par toutes les étapes, qui a été pas mal touche à tout. Je suis persuadé qu'il veut travailler dans la Ligue nationale. Il veut pas rester dans la Ligue américaine. Joël Bouchard, c'est assez évident. Donc, puis, tu sais, il va avoir une opportunité peut-être de changement. Alors, c'est peut-être plus l'inverse qui va se produire.
C'est pas fou du tout, parce que ça, effectivement, je veux dire, il y a aucun entraîneur, je pense, qui aspire à passer 8 ans dans la Ligue américaine non plus. Là, je veux, éventuellement, tu fais ça pour bouger. On le sait, dans le cas de Bouchard aussi, il y a cette espèce de flou-là, à savoir est-ce que c'est un futur entraîneur ou c'est un futur dirigeant. Il a touché aux deux. Donc, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut, faut réfléchir. Puis ouais. Tantôt, tu sais, vous avez évoqué, c'est ça, reste à savoir, ça va être qui le DG. Ben, c'est ça aussi. Je veux dire, s'il devait y avoir un grand ménage à la fin de l'année, est-ce qu'à ce moment là, il y aurait des ouvertures qui se présenteraient à Joël Bouchard plutôt du côté de la direction. Est-ce qu'un nouveau DG voudrait avoir Bouchard comme adjoint? Puis est-ce que ça ferait l'affaire? Tu sais, ça peut vraiment aller dans toutes les directions, dépendant de ce que Jeff Molson décidera de faire avec Marc Bergevin à la fin de l'année. Parce que, rappelons-le, Marc Bergevin, son contrat expire en 2022. Donc, c'est quand même rare que tu laisses ton DG commencer en dernière année de contrat sans renouveler. Donc, il devrait y avoir une décision, on devine pendant la saison morte là, là-dessus, puis bon. on aura une meilleure idée où ça s'en
va. Là, les gars, il va falloir donner nos prédictions, il va falloir se mouiller. Canadien, 3 matchs contre les Flames avant notre prochain podcast.
Est-ce qu'il faut prédire s'il va y avoir des matchs, c'est ça? C'est ça la prédiction?
On pourrait
arrêter ça. Là.
On va prendre pour acquis qu'il va y avoir 3 matchs. Là. De toute façon, c'est hors de notre contrôle, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez qui va arriver. Donc, c'est-à-dire combien de victoires en 3 matchs, Guillaume, selon toi?
Moi, je vais y aller avec le scénario plate. Une victoire, une défaite en prolongation. 3 points sur 6.
3 points sur 6. Bon, OK. Jérémy Rainville?
2 victoires sur 3. Je pense 2 victoires sur 3. Je vais en donner une vendredi à Jake Allen et j'en donne une samedi à Caden Pribeau.
OK, parfait. Michael?
1 victoire, mais aussi 3 points.
Ah, OK. Ben moi, je vais y aller le plus poche. 1 victoire, mais seulement 2 points.
Oh!
Mais ça va être assez bon pour garder les Flames assez loin pour que le Canadien soit en bonne position. Alors voilà, les gars, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé. Comme à l'habitude, on va vous souhaiter un bon week-end puis une bonne série de 3 matchs contre les Flames de Calgary. Jérémy Rainville, Michael Lalancette et Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été là. Mon nom, c'est Jérémy Filosa et merci aussi à Maxime Paquet à la mise en onde. On se retrouve sans faute mardi. Salut tout le monde!